Lyon Première Info. L'invité de Paul Satis.
Et l'invité de Paul Satis, c'est Bernard Rivalta. Messieurs, bonjour.
Bonjour Bernard Rivalta.
Bonjour.
Ancien conseiller municipal de Vénissieux, ancien président du Citral, vous êtes la victime collatérale de l'élection municipale de Vénissieux, puisque absent des listes, vous avez perdu votre mandat de conseiller municipal, donc votre poste de conseiller communautaire, et donc la présidence du puissant Citral, qui est, je le rappelle, l'organisme qui gère les transports en commun dans l'agglomération lyonnaise. Vous vous êtes très très peu exprimé, Bernard Rivalta, depuis que vous avez quitté la présidence du Citral. Merci d'être là, donc c'est votre première interview radio, et on va essayer de comprendre ce qui est arrivé. D'abord, est-ce que c'est un choix ou est-ce que cette situation a été subie de votre part? Vous souhaitiez rester à la présidence du Citral et ces événements politiques ont fait que vous avez dû la quitter.
Bah écoutez, il y a un fait et puis après il y a des choix. Le premier fait, c'est qu'effectivement l'élection de Vénissieux a été annulée à cause de gens qui se disent identitaires, c'est-à-dire encore plus à droite que l'extrême droite, qui ont bidouillé et magouillé pour mettre des candidats sur leur liste, ce que le tribunal a contesté et a donc annulé l'élection de tout le monde.
Dont la vôtre.
Ce qui est quand même... Non mais de tout le monde. C'est-à-dire que quand vous n'êtes plus élu municipal, vous ne pouvez être plus élu à la métropole. Et donc si vous n'êtes pas élu à la métropole, vous ne pouvez pas être élu au conseil d'administration du Citral et donc être président du Citral. Donc nous avons tous collectivement était démis de nos fonctions. Michel Picard de sa fonction de maire, Michel Picard au moins de ma fonction de conseiller métropole, et moi en tant que président du Citral. Ça, c'est les faits que je trouve assez inadmissibles de la part d'un tribunal et de la part de la démocratie, c'est-à-dire pourquoi nous, on est élus, on est invalidés, alors que nous n'avons pas fait de faute.
Vous auriez très bien pu être réélu cette fois sur une liste ou l'autre. Pourquoi vous n'étiez pas ni sur la liste de M. Ben Khalifa, ni sur celle de Mme Picard?
Ben d'abord, écoutez, sur la pétition de principe, comme il y avait un risque avant que le Front National puisse monter une liste, dont on sait bien qu'il l'a montée au dernier moment, et qui fait qu'il y avait un risque de pénétration des sensibilités du Front National et de l'UMP, moi, je ne voulais prendre aucun risque, et ça c'est culturel, et c'est politique chez moi, c'est un choix politique délibéré, je ne voulais prendre aucun risque qui fasse que la gauche perde la mairie de Vénissieux. À partir de là, il y a eu une discussion pour faire une liste d'union. Elle n'a pas abouti. Le cas de notre tête de liste passée, Ben Khalifa, étant problématique pour la maire de Vénissieux, alors qu'effectivement, elle était complètement d'accord qu'on puisse faire une liste avec moi et avec d'autres pour faire une liste d'union. Et Gérard Collomb a jugé que ce n'était pas elle à déterminer qui était qui, et donc a décidé que nous ferions une liste autonome.
C'est-à-dire que c'est Gérard Collomb qui a imposé finalement votre conduite. Il a dit vous ne partez pas avec Ben Khalifa.
Et il a dit on fait une liste autonome. Alors après, moi j'ai quand même mon libre arbitre, et je suis aussi de temps en temps un homme de conviction. Moi, à partir du moment où j'ai pensé qu'il ne fallait prendre aucun risque, j'ai dit moi je ne suis pas favorable à une liste qui ne soit pas une liste autonome. Et donc, par voie de conséquence, je n'étais pas sur la liste de Ben Khalifa. Et comme, effectivement, le...
Mais vous auriez pu être sur celle de Mme Picard, mais c'était aller contre la volonté de Gérard Collomb.
Non, alors. C'était pas ça la question. La question, c'est que au niveau du Parti communiste, le fait que l'étiquette du Parti socialiste avait été donnée à Ben Khalifa, bah, il considérait que moi, je ne pouvais pas représenter l'électorat socialiste. Et donc, il n'y a pas eu d'accord pour me permettre d'être sur cette liste.
Excusez-moi l'expression, Bernard Rivalta, mais est-ce que vous avez eu l'impression d'être un peu le cocu de l'histoire ?
On est toujours le cocu de quelque chose, vous savez, ça, c'est une vraie garantie de l'histoire. Mais c'est pas ça, je le passe pas sur cet aspect-là des choses. Je crois simplement, effectivement...
En tout cas, de manœuvre politique qui
était... Il y a eu une erreur d'analyse.
De la part de qui ?
De la part à la fois de Gérard sur la capacité de Ben Khalifa à faire une liste qui fasse un score suffisant pour avoir un poste à la métropole, et à la fois une erreur d'analyse du Parti communiste, parce qu'aujourd'hui, il se retrouve aussi en position d'opposition à Gérard Collomb à la métropole, et je rappelle que la métropole, c'est 60% des investissements de la ville de Vénissieux.
Est-ce que vous avez l'impression, ça s'est beaucoup dit hein, d'ailleurs, après qu'on ait connu la composition de la liste de Lotfi Ben Khalifa, est-ce que vous avez l'impression que Gérard Collomb vous a un peu lâché ?
Oh, pas du tout. Je suis resté en contact avec Gérard Collomb et aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions pour faire en sorte que ma compétence, comme il dit, mon expertise, puisse encore s'appliquer au niveau du Citral. Mais moi aussi, de temps en temps, j'ai aussi envie de faire un peu autre chose, quoi.
Et vous l'avez dit à Gérard Collomb, t'es trompé.
Bien, ouais, il le sait bien. J'ai pas besoin de lui répéter 30 fois. Il est capable de faire les analyses tout seul.
Est-ce que pour vous aujourd'hui, Bernard Rivalta, ça fait très longtemps que vous êtes élu. Vous avez d'abord été élu à Villeurbanne et puis au Conseil Général également, puis à Vénissieux. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez plus de mandat? Est-ce que c'est la fin de votre carrière politique?
Mais c'est pas la carrière politique pour moi, c'est faire quelque chose.
Vous n'avez plus de mandat pour faire.
Mais j'ai aussi d'autres capacités, d'autres compétences, notamment au niveau international. Et effectivement, je suis sollicité par un certain nombre de grandes entreprises parce que mon expertise, notamment sur le fonctionnement des réseaux, est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Donc je continuerai à faire et à aider des entreprises
françaises.
J'ai
pas dit la fin de votre carrière, j'ai dit la fin de votre carrière politique.
Oui, mais la carrière politique, si vous voulez, moi, il y avait l'urette que j'ai plus de carrière politique. Je veux dire, c'est ceux qui rêvent d'être ministre, ceux qui rêvent d'être député, de sénateur. Moi, ça fait 14 ans que je gère le Citral, que je gère un budget d'un milliard d'euros par an.
Justement, c'est un poste politique particulièrement important dans l'agglomération lyonnaise.
Ce qui m'intéressait, moi, dans ce rôle-là, c'était pas le rôle politique. Bien sûr que ça, c'est effectivement quelque chose d'important pour le développement de la ville et pour les orientations de la ville. Mais c'est surtout de faire. Bon, voilà, avoir fait de ce réseau en 14 ans, le réseau qui soit le premier de France, qui soit un des tout premiers d'Europe, ben oui, à la fois c'est politique, mais à la fois c'est surtout aussi construire quelque chose pour nos concitoyens.
Quand vous avez été invalidé, Gérard Collomb a pris la présidence du Citral en disant « c'est provisoire ». Et c'est du provisoire qui dure un peu.
Mais c'était provisoire parce que c'était prévu que je retrouverais un poste à la métropole et que je serais donc réélu président du Citral. Mais comme je n'ai pas retrouvé de poste à la métropole, ben aujourd'hui, le provisoire effectivement pose des questions. Mais il ne pose pas des questions par rapport à lui. Il pose des questions d'une façon générale.
Il va rester président du Citral ?
Je le souhaite.
Je
le souhaite parce
qu'il n'a pas un emploi du temps un peu contraint.
Mais après,
vous prenait pas mal de temps, vous, le Citral, à plein temps quasiment.
Moi, j'étais effectivement quelqu'un à plein temps. C'est bien pour ça, effectivement, que je crois qu'un président de Citral doit être présent. Mais là, on a mis en place un vice-président délégué. Bon, on va voir comment, dans quelle façon et de quelle tournure je peux continuer à aider Gérard Collomb par rapport à la gestion du Citral et donc essayer de continuer à faire tourner cette fantastique machine.
Alors justement, là, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont dites sur le rôle que vous pourriez avoir au sein du Citral en ne pouvant plus être élu à cause de ce qui s'est passé à Vénissieux. Vous pouvez en revanche être salarié, avoir un poste de direction, c'est possible ?
Eh bien non, ça a été envisagé, mais ce n'est pas possible parce que j'ai 67 ans et qu'au-dessus de 67 ans... dans ce pays, on ne peut pas indemniser. Et que comme j'ai déjà beaucoup donné de ce point de vue-là au niveau du Citral, moi, j'ai besoin à un moment donné aussi de gagner ma vie. Et donc, là, je ne peux pas prendre de responsabilité si je n'ai pas, par ailleurs, une activité, comme je citais tout à l'heure, à l'international, qui me ramène quand même de quoi faire fonctionner ma vie personnelle.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, le Citral, c'est terminé. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité pour vous d'y travailler, d'y exercer une influence ?
Si.
C'est quoi, comme conseiller
C'est d'être conseiller du président, c'est bien évident.
Officieux ?
Mais c'est pas officieux. Il y avait déjà, dans le mandat précédent, j'avais déjà trois conseillers. Lucien Durand, Robert Thévenot et Christian Philippe. Voilà. Mais on ne peut pas. Ils n'étaient pas payés. Ils faisaient ça à titre gracieux. Et c'est sur ces bases-là, éventuellement, qu'on peut réfléchir.
Le bilan de tout ça vous rend un peu amer ?
Non, parce que...
Pourtant, on ne peut pas dire que vous ne connaissez pas bien la vie politique,
non,
hein,
mais
Rivalta.
Bon, vous savez, moi j'en ai tellement vu. J'ai vu la majorité de l'opposition, etc. J'ai pas de... Non, moi, ce qui ne me rend pas amer, c'est qu'en 14 ans, j'ai fait de ce réseau le plus beau réseau de France et le plus beau des réseaux européens. Ce qui ne me rend pas amer, c'est qu'il y a une équipe fantastique autour de moi. Mais ça me rend inquiet. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que cette équipe soit détruite. Ce qui ne me rend pas amer, mais qui m'inquiète aussi, c'est la pérennité du Citral. Si nous avons pu faire ça, c'est qu'il y avait une entité qui était indépendante et qui pouvait faire fonctionner le budget que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc tout
et
ça...
Et vous ne faites pas confiance à Gérard Collomb pour faire perdurer ça, au moins jusqu'en 2020.
Mais bien sûr que si.
C'est la fin de son mandat à la métropole.
Vous imaginez bien 30 secondes que ça fait partie des choses dont nous discutons et sur lesquelles j'attire son attention, et il en est bien conscient. Je crois qu'aujourd'hui, bon, si c'était à refaire, je ne suis pas sûr qu'il referait le même choix.
Merci beaucoup, Bernard Rivalta.
Je vous en prie.
Ancien conseiller municipal, ancien président du Citral, qui s'exprimait vraiment pour la première fois.
Ancien conseiller général, je vous rappelle que je suis conseiller général honoraire pour avoir fait 6 mandats de conseiller général.
Et en plus, vous avez perdu votre mandat de conseiller général, mais ça, c'était la réforme territoriale. C'était pas le Conseil d'État.
J'ai pas perdu, je ne m'étais pas représenté la dernière fois.
Merci beaucoup, Bernard Rivalta, d'être venu vous exprimer donc, sur cet épisode politique de Vénissieux. Bonne journée.
Merci à vous.
Bonne journée.